I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
S'il vous plaît, mademoiselle, merci. Avec les chips.
Santé, Mario! Ouais!
Je crois que tout simplement, je l'ai fait voler en éclats et j'ai explosé son jeu.
You cannot be serious!
Il est espagnol, Rafael Nadal!
Hello à tous et bienvenue pour ce 49e épisode. On se retrouve chaque mardi pour vous faire entrer dans les coulisses du circuit ATP et WTA à l'aide de parcours inspirants et d'histoires croustillantes. Aujourd'hui, on reçoit l'actuel poulain du coach Thierry Tulane, notre dernier invité au micro. Et il s'agit du lauréat 2020 de l'Open d'Australie et numéro 1 mondial junior à cette époque-là, Harold Mayo. Hélas, Harold a subi un coup d'arrêt depuis qu'on a enregistré notre interview, puisqu'il n'a pas encore pu jouer un match en 2021, après une opération au ligament du poignet, et a donc logiquement rendu sa wildcard pour les qualifs du tableau senior de l'Open d'Australie 2021. On parle ensemble de ses tatouages, qui prennent de plus en plus de place et de sens sur son corps. Harold nous raconte sa relation avec son coach, qui fait aussi office de mentor et prépa mental Thierry Tulane, donc foncez écouter l'épisode 48 d'ailleurs si c'est pas encore fait. Veuillez au passage excuser Arthur, le frère d'Harold, qui s'envoie un gros ménage de printemps. Heureusement, notre maniaque de la propreté s'est offert un break au bout de 10 minutes d'enregistrement pour notre plus grand bonheur. On revient évidemment sur le titre d'Harold en Grand Chelem Junior, il nous débriefe sa demi-finale assez épique, puis nous fait vivre la finale sur la Rod Laver Arena face à son pote d'enfance Arthur Cazot. Pour voir le trophée, au passage, rendez-vous sur YouTube, les légendes. On évoque ensuite la manière de gérer les réseaux sociaux, la concentration et l'influx derrière cette pompe à attention et à énergie, ainsi que la façon de recevoir des insultes, voire des menaces de certains parieurs. J'espère que l'échange et la découverte de ce nouveau profil vous plaira. Alors place au 49e épisode avec Harold Mayo, bonne découverte et bonne écoute à tous.
Alors Harold, t'es né le 14 février 2002 à Metz.
Le 4 février.
Eh ben tu vois, ça commence fort. Département la Moselle, région la Lorraine. C'est important à préciser pour les gens comme moi dont la géographie n'est pas une qualité, tu vois. Tu mesures 1m78 pour 78 kg, c'est toujours le cas ou t'as grandi ?
1m80 pour 76 kg.
Et tu as encore de la marge en termes de croissance ?
Je pense pas.
Ok.
Peut-être un centimètre ou deux, mais d'accord. Je pense pas.
Tu as récemment gagné l'Open d'Australie Junior en étant tête de série numéro 1. En finale, tu bats un autre Français, ton pote de 10 ans, Arthur Cazot. À l'issue du tournoi, tu passes numéro 1 mondial junior. En juillet 2019, tu fais demi à Wim, toujours en junior. Tu as été champion d'Europe en double avec Valentin Royer en 2019. Tu es actuellement 454e mondial. Tu as fait deux finales de tournoi futur et gagné celui de Villiers-les-Nancy à domicile presque. Tu as battu ton premier top 100, le Biélorusse Igor Gerasimov, sur le Challenger de Bendigo en Australie. Tu as déjà des tatouages sur le corps, dont celui d'un lion dans le dos. Tu dis qu'il reflète ta personnalité sur le terrain. Et tu as commencé à quel âge des tatouages et t'en as combien précisément ?
Le jour de mes 15 ans, j'ai commencé et j'en ai 8.
Et tes parents étaient chauds, ils t'ont jamais bridé ?
En fait, je leur ai pas dit au début, je leur ai pas dit. Moi, en fait, mon frère était déjà tatoué à l'époque et j'adorais vraiment ce qu'il avait et je voulais m'en faire aussi. Donc, j'ai commencé avec un et puis après, on aime ça en fait. On a envie d'en faire un autre, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième. Et après, on s'arrête plus et je me suis dit, pourquoi pas essayer de mettre tatouage, tout ce que je pense de moi ou ce que je veux être ou les choses importantes pour moi.
Tu penses que tu vas aller jusqu'où?
Je sais pas encore. Là, j'ai pas encore trop d'idées en tête pour d'autres tatous. Après, j'ai de plus en plus mal quand j'en fais, donc je me calme un peu. Surtout que j'en ai fait des gros récemment quand même.
Ouais.
Donc ça me fait assez mal. Donc j'essaye de. Là, je vais calmer un peu et attendre d'avoir de l'inspiration, quoi.
Ça coûte combien un petit tatouage et combien ça coûte un gros tatouage?
Un petit tatouage, ça coûte 80 € et un gros comme ça,
ouais.
ça coûte 400 €, quoi. 400-500 €.
Ok. On a fait un des tout premiers épisodes avec ton coach Thierry Tulane, ensemble. Thierry, ancien 10e joueur mondial, que tu considères un peu comme ton deuxième père. Te concernant, il me prévenait que ça pouvait être dur de te concentrer plus de 20 minutes. Est-ce que tu te sens prêt à relever le défi ?
Bah, je me sens prêt à relever ce défi-là parce que je pense que Thierry a menti. Ah. Et que je suis complètement capable de me concentrer plus de 20 minutes.
Ah ben.
Je vais le prouver aujourd'hui. Je vais le prouver aujourd'hui que je peux faire mieux que ça.
Tu vas rentrer dans la communauté des tennis légendeurs et lui prouver que c'est possible.
Exactement. Exactement.
C'est bon ça. Est-ce que pour commencer, tu peux nous dire comment t'es venu au tennis et pourquoi t'as choisi ce sport ?
Alors, bah, moi, je suis venu au tennis. J'avais en fait trouvé dans mon garage une raquette de badminton et une balle en mousse. Et j'avais commencé justement à jouer avec ça. Et après, je tapais la balle contre le mur. Et mon père m'a mis sur le terrain quand j'avais 4 ans et je voulais jouer tout le temps. Tout le temps, je l'harcelais presque pour jouer 5, 6 heures, 7 heures par jour. Ouais. Donc, je suis venu comme ça et j'ai vite progressé. Après, j'ai eu mon premier entraîneur.
Ouais.
Et ça a commencé comme ça jusque maintenant.
Est-ce que tu peux nous faire l'évolution de ton classement de non classé à maintenant ?
Ouais, après, je sais plus exactement, mais je sais que je suis passé de NC à 32, quelque chose comme ça. Après, j'ai fait, par exemple, j'ai dû faire 32, 15-3, 15-3, 15-1, 15-1, 4-6. Ou 5-6, je crois. Après, j'ai fait 5-6, 1-6. Après, j'ai dû faire 1-6, moins 2, moins 2, moins 4, moins 4, moins 15 et numéroté 70. Puis après, je crois que je suis 47, un truc du genre. Je ne sais pas exactement mon classement français aujourd'hui, mais ouais, voilà, enfin, c'était une évolution assez constante.
À quel moment tu as secrètement rêvé de quelque chose et tu as rêvé de quoi précisément ?
Bah, j'ai tout de suite rêvé, moi, que je pouvais essayer d'aller chercher quelque chose de bien. J'ai toujours rêvé de pouvoir un jour gagner un grand tournoi, gagner un grand chelem ou un grand tournoi de ce calibre-là. Ça a toujours été mon rêve depuis que je suis gosse, hein, depuis que j'ai commencé le tennis finalement. Et voilà, aujourd'hui, ça reste un rêve et voilà, et j'essaie de m'en rapprocher et ça serait incroyable de pouvoir gagner un jour un tournoi de ce genre-là.
Ton coup le plus naturel, c'est lequel ?
C'est le revers. J'ai toujours eu un revers assez naturel. Je pense que c'est le coup où je me sens le mieux et où je sens que je peux faire le plus mal, même si mon coup droit commence, je commence à être aussi à l'aise en coup droit et faire plus de points avec, de part parce que j'ai plus de force aussi en coup droit. Mais ce qui a été vraiment naturel, ce que j'ai pas eu besoin de travailler forcément énormément, c'est mon revers.
Et le plan de ton jeu, tu penses qu'il doit le plus évoluer ? C'est quoi ?
Bah, le plan de mon jeu qui va le plus évoluer, je pense que c'est sur mon jeu d'attaque. J'essaie vraiment de travailler un maximum là-dessus, de prendre la balle tôt. Et je pense que j'ai encore beaucoup de travail à faire là-dessus. Je dois aussi travailler à la volée. Je dois être encore meilleur au filet pour ne plus en tout cas hésiter à aller vers l'avant. Et je pense que je dois me sentir vraiment à l'aise à la volée. Donc, c'est un coup que je dois travailler encore.
Tu as joué les 4 tournois du Grand Chelem jusqu'à maintenant ?
Oui, j'ai joué les 4 tournois.
Et bon, on imagine tous que ton souvenir sportif le plus fort, c'est à l'Open d'Australie. Est-ce que tu peux nous sortir une ou deux anecdotes un peu sympas que tu as vécues sur place, peut-être avec des pros qu'on connaît tous, des choses que tu as peut-être partagées avec eux ?
J'en ai tellement. Non, mais après, on a tous passé des bons moments ensemble. Après, moi, j'ai jamais été beaucoup avec les autres sportifs ou quoi pendant les tournois. Moi, je passe un maximum de temps avec Thierry et Seb qui étaient en Australie. Donc, je passais beaucoup de temps avec eux. Après, des anecdotes, ma journée, par exemple, une fois, on était à l'US Open et Thierry m'attendait pour manger et je pensais qu'il mangeait tout seul le soir dans sa chambre parce qu'il aime bien faire des room service. Je crois qu'à la fin de la journée, il me supporte plus. Du coup, il aime bien être seul. J'étais parti manger avec d'autres coachs et d'autres joueurs, et il m'attendait, et il m'a attendu jusqu'à 21h30, comme ça, et finalement, il a mangé seul, parce qu'il m'a attendu, et je suis jamais venu.
Il n'y a pas un moment où il s'est dit, tiens, je vais lui envoyer un petit texto, c'est un truc un peu pratique.
Il m'a appelé, mais on devait aller manger assez tard, on était rentré assez tard, et il m'a attendu une demi-heure, 45 minutes, et à un moment donné, il m'a appelé, et vu qu'on était à New York, moi, j'avais pas de forfait téléphonique, du coup, je lui ai répondu au bout de la deuxième ou troisième fois, quoi. Après, ça n'a pas posé un souci. Je pense qu'il était aussi qu'il est content de faire un room service. Ça l'arrangeait bien. Après, j'ai des anecdotes avec beaucoup de jeunes. Mais bon, des anecdotes de jeunes, quoi. Pas trop à raconter.
Ce qui doit être impressionnant pour vous, c'est que quand tu es en grand chelem junior, tu atterris à la deuxième semaine des seniors. Donc, il reste les meilleurs.
Ouais.
Les meilleurs. Est-ce que tu as l'occasion d'échanger un peu avec eux dans les vestiaires où chacun fait vraiment sa vie ?
On a l'occasion d'échanger avec les Français beaucoup ou alors avec les joueurs que connaît Thierry parce que moi j'ai la chance d'avoir un entraîneur comme ça qui connaît le circuit déjà depuis un moment. J'ai eu la chance de pouvoir rencontrer quelques joueurs grâce à lui parce que bah il les connaissait d'avant. Donc ouais, j'ai eu la chance de pouvoir parler avec quelques joueurs. Je me souviens à Marseille, j'ai eu la chance de parler avec Marin Cilic au petit déjeuner. On avait parlé assez longuement et c'était super intéressant. Après, quand on est en Grand Chelem, c'est différent parce que les juniors sont dans un vestiaire à part des pros, donc on les voit pas souvent. Après, bah en Australie, par exemple, le vestiaire des juniors, il y a bah Rafa qui s'y entraîne. Qui s'entraîne tout le temps à l'intérieur du NTC et il vient toujours prendre une douche bah, après dans le vestiaire. Et on arrive à le voir quand même assez souvent. Bah, les jours où il n'a pas match, on arrive à le voir tout le temps. Et vu que moi, c'est bah, mon idole depuis que je suis jeune, bah, les peu de fois où j'ai pu le voir, ça a été incroyable, quoi. J'étais comme un gosse. C'était un souvenir assez sympa.
Tu dis que la relation que tu as avec Thierry, c'est un peu comme une relation de père-fils. Qu'est-ce que tu as ressenti la toute première fois que tu l'as rencontré? Tu t'en souviens?
Bah, moi, la toute première fois que je l'ai rencontré, bah, déjà, le jour où j'ai su que j'allais être entraîné par Thierry, ça m'a fait bizarre parce que bah, moi, c'est un mec que je connais depuis que je suis gosse. Il a eu une réputation quand même en France de joueur et de coach assez réputé. Donc, bah, j'étais un petit peu surpris. Après, je savais que ça allait être une super expérience pour moi. La première fois où je l'ai vu, ouais, je me souviens, il est arrivé en chemise jean, comme il sait faire tout le temps, être assez classe comme mec. Et je l'avais vu, ouais, c'était à la journée d'intégration à Paris. Et ça a été assez vite quand même. Je me suis senti assez vite à l'aise avec lui, que ce soit sur le court ou en dehors. Et petit à petit, on s'est entendu de mieux en mieux. Après, je m'attendais pas forcément à m'entendre aussi bien avec lui, mais voilà, plus le temps passait, plus le temps on a passé ensemble, et voilà, on partage pas mal de choses. Il me fait quand même évoluer dans beaucoup de domaines, que ce soit bah, sur le plan bah, de comment je vois les choses dans le monde général, ou bah, sur mon plan bien sûr tennistique, mais aussi en tant qu'homme.
Est-ce que Rafa derrière peut faire un chouette moins de bruit, parce que pour l'audio c'est pas le top?
Ouais, je peux faire un petit peu moins de bruit.
À écouter, ça va être un calvaire. C'est gentil. Merci. Ouais. Excuse-moi, je t'ai coupé, ouais.
Ouais, donc voilà, je ne m'attendais pas à moi aussi bien forcément que ça avec lui, mais il m'a fait évoluer dans beaucoup de domaines. Et voilà, c'est ce qui rend notre relation un petit peu particulière par rapport à d'autres relations coach-joueur que j'ai pu avoir dans le passé.
Si vous voulez nous aider à développer le podcast, vous pouvez le faire très simplement en nous mettant 5 étoiles sur iTunes et un avis sympa. Un commentaire sur YouTube ainsi qu'un like tout de suite, ça nous permet d'améliorer le référencement et c'est un grand plaisir de vous lire. Sachez que vous avez accès à 2 formations gratuites en description de l'épisode. Une première pour savoir ce que la stat dit de votre jeu, c'est 1h14 de contenu offert avec le statisticien Fabrice Barreau, qui accompagne entre autres le coach de Daniil Medvedev et Félix Auger-Aliassime. La seconde formation gratuite regroupe 14 conseils du prépa mental Jean-Philippe Vaillant, qui a coaché 12 top 100, ça va enfin vous permettre de jouer plus relâché sur un court de tennis. Foncez les récupérer dès maintenant. Allez, c'est parti, on y retourne.
J'ai eu pas mal de joueurs ici, d'anciens joueurs, et c'est marrant, tu vois, qui ont été coachés par Thierry. Jérôme Hénel, Florent Serra, tu vois, des générations un peu comme ça, un peu lointaines, Julien Jean-Pierre, et tous disaient que c'était un gars qui était vraiment axé sur le mental, sur ce que tu dégages sur le terrain, ton attitude notamment, tu vois, il mettait vraiment l'accent là-dessus. Et tu penses qu'il t'a apporté quoi d'essentiel aujourd'hui?
Moi, ça fait presque 2 ans que je travaille avec lui et je pense que 95% des fois où on a parlé ensemble de tennis, il m'a que parlé de ça, de mon mental et de ce que je dégageais sur le court. Pendant un an, il m'a parlé que de ça. Il m'a pas parlé une fois de mon jeu, très peu. On a fait 2-3 évolutions techniques, mais ouais, c'était vraiment très très peu. Et lui, en fait, pendant un an, il m'a dit moi, ce que je veux voir, c'est un mec bah, pro sur le court, dans l'attitude. Et il m'a beaucoup apporté là-dedans parce que je pense que bah, déjà, comment il coach quand tu es en match, c'est très différent des autres entraîneurs. Il arrive à rester calme alors que d'autres entraîneurs pourraient être. À vivre le match à fond et être là, aller, machin, se lever à chaque point. Et lui, c'est un mec assez calme. Il fait pas souvent ça, il se lève pas souvent, il montre rien, en fait. Et je pense que c'est ce qu'il veut bah, que je fasse aussi. Donc, il essaie voilà, d'avoir l'attitude qu'il aimerait que j'ai. Et là-dessus, je pense qu'il m'apporte beaucoup. Et voilà, c'est important. Je pense que bah, maman, mon jeu, il est beaucoup centré sur bah, la manière dont je me concentre, la manière dont je me comporte sur sur le court pendant un match. Donc c'est vrai que là-dessus, il m'a beaucoup apporté. Aujourd'hui, j'arrive franchement à beaucoup mieux gérer mes émotions. Donc je pense que Thierry, c'est au-delà d'être un coach tennis, c'est un coach mental aussi. Et voilà, c'est vraiment incroyable de pouvoir avoir un coach comme ça, un petit peu multi-fonction, qui connaît aussi bien que ça notre sport.
Yes, la prépa foncière de l'hiver dernier en préparation à l'Open d'Australie, justement, c'était où et elle ressemblait à quoi?
Alors moi, j'ai fait une préparation les deux premières semaines, j'étais à Paris avec Thierry. C'est super bien passé avec lui. On a fait voilà, deux semaines d'entraînement de qualité. Et moi, je suis parti ensuite m'entraîner à l'île Maurice. Parce que Thierry était en vacances pendant les fêtes, et ben moi aussi normalement d'ailleurs, mais voilà, je voulais vraiment axer tout ce que voilà je pouvais mettre en place et préparer ça un maximum. Du coup, j'ai essayé de partir à l'île Maurice. Je suis parti avec mon frère grâce à l'académie de Matteo Zino qu'il a là-bas. D'accord. On est parti là-bas. J'ai entraîné avec Enzo Cuoco là aussi. Et franchement, ça a été, je pense, deux semaines très très bénéfiques. De part, bah, déjà que j'ai pu m'acclimater assez vite aux conditions australiennes parce qu'à l'île Maurice, il faisait très très chaud et hyper humide. Donc ça m'a permis voilà, de m'acclimater assez vite et on a fait des grosses séances d'entraînement, des grosses séances de physique aussi. Et en dehors de ça, c'était une expérience humaine incroyable. J'ai rencontré des gens formidables là-haut. Donc voilà, c'était deux semaines incroyables et qui m'ont permis voilà, d'être vraiment prêt en arrivant en Australie.
Et tous les soirs, tu faisais des briefs à Thierry pour lui donner un peu un retour des sensations de ce que tu avais bossé. Et
tous les soirs, je faisais un message vocal à Thierry pour lui dire ce qu'on avait travaillé, comment je me sentais. Et bah, lui, voilà, me donnait aussi des conseils sur ce que je lui disais. Et c'était assez intéressant voilà, d'avoir comme ça un échange à distance.
Est-ce que tu peux nous raconter cette semaine de fou que tu as vécue à l'Open d'Australie, à Melbourne?
En fait, la semaine était incroyable. Moi, j'avais bien joué déjà à Bendigo et à Nouméa avant.
Ouais.
Donc, voilà, déjà, le début de la tournée en Australie, en Nouvelle-Calédonie, était incroyable. J'ai pu, j'étais avec pas mal de joueurs comme Mathias Bourg, Quentin Harris, etc. Donc, c'était super de pouvoir passer du temps avec eux. Et en arrivant en Australie, en fait, ça a commencé, je dirais, normalement, premier tour un petit peu tendu. J'étais tête de série numéro 1. Donc, c'est pas facile d'arriver avec ce statut-là, surtout que j'avais fait quart en challenger avant. Ouais, j'étais prêt, quoi. J'étais prêt et tout le monde m'attendait un petit peu au tournant. Donc, c'était une super semaine là-bas. J'ai réussi à vite jouer à un niveau de jeu correct, ce qui m'a permis d'arriver en quart. Après, en quart, j'ai joué le Swiss Striker. Et là, ça a été un match super dur, vraiment très, très dur. Parce que je savais qu'il jouait très, très bien. Il m'avait déjà battu en finale l'année dernière. À Istres. Donc voilà, je m'attendais à un match dur et je suis rentré sur le court vraiment stressé et je jouais très très mal jusqu'à un 7,5. Et après, j'ai réussi grâce à mon attitude et là, encore une fois, c'était grâce au travail qu'on avait fait avec Thierry avant, j'ai réussi à rester calme et positif tout le match. Et c'est ce qui m'a permis à la fin de gagner ce match-là 7-5 au troisième parce que c'était vraiment dur parce que bah, le niveau de jeu n'était pas là et je devais plus me concentrer voilà, sur ce que j'avais le jour-là dans le bateau, un peu, enfin, ce que j'avais, ce que je pouvais jouer avec. Quoi. Et, donc c'était compliqué, mais j'ai réussi à m'en sortir et je pense que c'est ce match-là qui a été décisif pour la suite du tournoi. Après, bah, la demi, c'était super dur parce que bah, d'ailleurs, c'est une super anecdote. On devait jouer le match à 13h. Il faisait plus de 42 degrés, il me semble, ce jour-là en Australie. Donc, le match a été suspendu. Donc, ils ont attendu une demi-heure. Il repoussait à chaque fois d'une demi-heure. Et à 17h30, moi, je me suis dit, bon, allez, je vais quand même aller manger un truc au cas où ça ne reprenne pas avant 19h, etc. Donc, je vais manger au Players Lounge. Et je prends un plat de pâtes avec de la crème, champignons, fromage, etc. Total. Et pendant que je suis en train de manger, j'arrive à la fin du plat de pâtes et j'entends que bah, on est appelé sur le court. Et moi, j'avais le ventre qui ballonnait et tout. J'avais mangé beaucoup, beaucoup et ça a été une erreur. Et en arrivant sur le court, j'étais mal. Mais dans un mal, je pense qu'il devait faire 39, 38 degrés. J'avais chaud, j'avais mangé avant, j'étais le ventre plein. Et le premier set a été très, très dur. J'étais essoufflé assez vite. J'ai pris 6-1 ou 6-3, je crois, d'entrée. Le deuxième set, pareil, je pensais à lâcher. Je me suis dit, je peux plus. Et je me suis dit, allez, alors, putain, bateau, c'est con, t'as quand même un truc à jouer. Et j'arrive à gagner le deuxième set un peu à l'arrache. Et là, je suis sorti au deuxième set et je suis allé me mettre dans une salle climatisée. Et je me sentais vraiment mal. J'ai failli faire un malaise dans la salle. Et j'ai vomi. Et en revenant sur le terrain, je me sentais beaucoup mieux. J'avais pris un peu le froid, j'étais bien. Et là, j'ai fait un troisième set. J'ai fait un super troisième set et c'est ce qui m'a permis justement d'arriver en finale après. Donc ça déjà c'est une super anecdote. J'ai pas joué, je pense que j'ai été un petit peu mauvais là-dessus.
C'est toi qui t'es fait vomir ou t'étais en mode malaise quoi?
Non, c'est moi qui me suis fait vomir parce que je sentais que j'étais vraiment pas bien du tout quoi. J'étais pas bien, je me sentais vraiment mal quoi. Ouais. Je me sentais mal et après ça allait beaucoup mieux. Et voilà, après c'est ce qui m'a permis de gagner ce match-là et à arriver en finale. C'était un petit peu particulier parce qu'on a changé un petit peu de monde. C'était plus le même tournoi en arrivant le jour de la finale parce que déjà on avait un autre pass. On allait dans un vestiaire un peu plus pro. On avait accès à la salle de gym, des pros, etc. Et on avait un casier à notre nom gravé et tout. Donc c'était déjà un autre monde. Et après on a eu l'échauffement sur la Rod Laver Arena. Et là c'est là où justement il faut en profiter, mais pas trop quand même, parce qu'il faut quand même se dire qu'on a une finale à jouer et qu'il ne faut pas non plus devenir fou. Quoi. Et ça, c'est assez dur pour un jeune, parce que moi, je regarde les matchs depuis que je suis gosse. Un stade comme ça, pour moi, c'est le plus beau cadeau du monde. Enfin, pouvoir jouer sur un court mythique comme ça, c'était assez incroyable. Mais là où j'ai réussi à être bon, c'est que j'ai fait vachement abstraction de ça. Et j'ai réussi à jouer mon match vraiment à fond. Je suis rentré un petit peu tendu parce que le fait de jouer un Français en finale, de jouer un ami à moi, de jouer un mec, je savais qu'il n'avait pas perdu un match depuis le début de la saison, qu'il était en forme et en confiance. Et je savais qu'il avait envie de me battre, mais de dingue. Donc, je suis rentré assez tendu sur le match et j'ai réussi à faire un break assez vite. Et après ce moment-là, j'ai senti quand même que ça partait bien parce que j'étais en forme. Je me sentais vraiment bien sur le court. Je sentais que je gérais mes émotions, que je gérais l'événement. Et j'ai réussi à après gagner le deuxième set 6-1 en étant vraiment solide, que ça soit dans mon jeu, dans la tête ou physiquement. Et voilà, c'était la fin d'une semaine incroyable. Je dirais un petit peu un rêve de gosse parce que ça reste vraiment du Grand Chelem Junior. On est avec les pros, avec les grands, et je pense que en fait c'est pas juste cette semaine là qui a été incroyable, c'est toute la tournée en Australie qui a été dingue. Nouméa, j'ai réussi à gagner mes premiers matchs en challenger. Ouais. Bendigo, j'ai gagné mon premier top 100 après l'Australie où j'ai réussi à gagner là-bas. Et en dehors de ça, je pense que humainement c'était aussi une expérience de dingue. Parce que déjà c'était la première fois que je partais avec Sébastien Poublet, mon entraîneur physique, aussi longtemps. J'ai découvert quelqu'un, une personne aussi incroyable, je dirais. Et je pense qu'on était une team assez formée là-bas. Et j'ai passé, je crois que là-bas c'est le meilleur mois de ma vie.
Énorme. Et la finale junior se joue avant ou après les seniors?
La finale junior se joue le matin de la finale des filles.
D'accord. Le stade était rempli comment?
Le stade n'était pas rempli. Alors, en fait, il y avait quand même un peu de monde. Il devait avoir, je pense, 500 personnes.
Ouais.
Mais le truc, c'est que le stade est tellement gigantesque qu'un stade avec un stade comme ça avec 500 personnes, on croit qu'il est vide, quoi. Mais ça n'enlevait pas le charme du truc. Jouer sur un court incroyable comme ça, en plus en Australie, maintenant le contour du court, c'est que des trucs électroniques, tu sais, genre, enfin, il y a le nom, il y a les pubs qui passent. Ouais. On avait le challenge sur le court, donc c'était, on avait nos coachs pareil dans le box en haut. On arrivait à voir par exemple le résumé des points sur l'écran géant qu'il y avait en haut du stade. Donc franchement, ça enlevait rien au charme. Après, ça aurait été incroyable que le stade soit plein, comme par exemple au final du junior à Wim, où les stades sont toujours pleins. Mais franchement, c'était quand même une expérience unique. Et j'espère, en tout cas, ça m'a mis un avant-goût en bouche et une motivation en plus pour revenir jouer sur ce stade-là le jour où il sera plein.
C'était une des premières fois où tu utilisais le challenge?
J'avais utilisé beaucoup le challenge à Wimbledon et j'avais joué quelques tournois avant chez les pros aussi, on l'utilisait pas mal.
D'accord.
Mais c'était une des premières fois, non, mais ça reste quand même assez rare. Quoi.
Ta première balle, la plus rapide, elle a été flashée à combien?
De 204, je crois, ou 205, quelque chose comme ça.
Ok. Tu bosses beaucoup au service?
J'ai énormément travaillé au service depuis que j'ai commencé avec Thierry. C'est un des axes dans mon jeu qu'on travaille le plus.
Ouais.
Je pense que ça m'aide beaucoup parce qu'en Australie, quand j'ai revu le résumé de mes matchs, j'ai fait beaucoup de points avec mon service pendant le tournoi et voilà, ça m'a beaucoup aidé quand même. Ça m'encourage aussi à aller davantage vers l'avant. Par le fait que je sers bien et que j'ai souvent une balle d'attaque après ma première balle, ça m'avantage quand même pas mal pour ensuite développer un jeu assez agressif.
Le tournoi vous envoie les matchs par fichier, c'est ça, pour que vous puissiez les regarder?
Bah là, il y avait des replays sur Eurosport Player.
Ouais.
Vu que je suis à eux, j'arrivais à les voir là. Mais après, il y a une application pour les joueurs de l'Australian Open, pour les pros ou pour les jeunes, où on a le résumé de tous nos matchs.
D'accord. Et le trophée, pour le ramener, tu le mets dans ta valise comme tu peux ou il te l'envoie gentiment au Chronopost dans un papier?
Alors, le trophée, c'est pas du tout celui qu'on a pour les photos, c'est une réplique et je l'ai juste ici, tu veux le voir?
Ouais, avec plaisir.
Je peux te... Attends, j'arrive. J'ai mis le trophée chez mon frère.
Ouais.
Et c'est une réplique en fait bah, du grand, mais ça reste un beau trophée quand même, quoi.
Génial, énorme.
Oh, et là, il a une saveur un petit peu particulière, quoi.
C'est bon ça. Tu te compares un petit peu mentalement du coup aux Français qui l'ont déjà gagné, l'Open d'Australie? Ou t'évites?
Bah, j'évite parce que on est tous des joueurs différents, je pense, et on a tous une évolution différente et voilà, pour l'instant, moi, j'ai encore rien fait. Je dirais chez les pros et il y a beaucoup de joueurs, bah, comme par exemple Gaël Monfils qui a gagné en Australie, il me semble, bah, qui est maintenant un joueur assez incroyable. Il est 9e mondial, je crois, aujourd'hui. Donc, bah, je me compare pas à eux encore. Je suis pas à leur niveau, mais voilà, j'espère le devenir un jour et voilà, j'espère avoir une évolution aussi bonne que la sienne.
T'es tout premier, est-ce que tu peux nous raconter ton tout premier point ATP? Est-ce que tu as ressenti?
Mon tout premier point ATP, je l'ai eu à Forbach. Je
Ouais.
l'ai eu à Forbach. J'avais joué Hugo Blanchet au premier tour et j'avais gagné mon premier point ATP contre lui. Et ce que j'ai ressenti, j'étais déjà satisfait de passer un tour dans mon tournoi futur et d'avoir mon premier point ATP. Après, je me sentais bien à ce tournoi-là et je me suis dit il fallait que j'aille en chercher un deuxième, un troisième, etc. Puis après, j'y pensais plus trop. Je pensais surtout à gagner les matchs et bah, je me suis dit que de toute façon que si je mettais tout en place, ça allait venir petit à petit et c'est ce qui s'est passé finalement. J'ai réussi à faire la finale de ce tournoi-là donc j'ai gagné 6 points ATP. À la fin de la semaine, j'étais assez content, mais voilà, j'avais vraiment dans la tête d'enchaîner un maximum. C'est ce qui s'est passé. Après, j'ai fait la finale en 25 000 à Saint-Dizier et j'ai pris 10 points en plus ou 12 points, je crois. Et après, j'ai réussi à gagner à Villers. Donc, bah, c'était 3 semaines assez incroyables. C'est là où j'ai vraiment engrangé mes premiers points ATP, où ça commençait à devenir intéressant en termes de classement et de points.
Énorme. Comme là, le calendrier est un peu bloqué, frisé à cause du confinement. L'année prochaine, comment ça se passe? Est-ce que tout est décalé? Est-ce que tu vas pouvoir refaire une année junior l'année prochaine ou tout va continuer normalement? Enfin, est-ce que là-dessus, tu sais un peu?
Non, 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 je pense qu'il n'y aura pas d'autre année junior. Parce que bah, les juniors, ça reste les moins de 18 ans. Donc, je pense que les tournois qui sont annulés, ils sont perdus pour les juniors dernière année.
Ouais.
Moi, j'avais pour but de jouer les grands chelems juniors cette année.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
On a décidé de finir l'année numéro 1 mondial. Après, je ne sais pas comment ça va se passer, si l'année est annulée, s'ils annulent, ben là, jusqu'à 2021. Est-ce qu'il y aura quand même un champion du monde désigné ou pas? Je ne sais pas du tout comment ça va se passer, mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura pas d'autres années juniors pour ceux qui sont en dernière année junior comme moi.
Récemment, il y a Ferrero qui vient de mettre un gros scud auprès des jeunes de la Next Gen. Je ne sais pas si tu as vu, en disant qu'il y avait trop de distractions. Il a coaché notamment Alex Zverev quelques mois. Il a noté ses sautes de concentration à cause des sollicitations, des réseaux sociaux, entre autres. Comment toi, tu essaies de gérer ça?
Bah, alors moi, déjà, je suis complètement d'accord avec lui. Je pense qu'il y a beaucoup de distractions de par les réseaux sociaux. Je pense qu'il a raison. Bah, c'est un joueur qui connaît quand même. Il a gagné Roland. Donc je pense que quand il dit un truc, il y a une part de vérité quand même. Il y a beaucoup de distractions et j'en fais partie. Je trouve que bah, moi j'aime bien aller voir bah, ce que les gens pensent sur Instagram, Snap. Bah, d'ailleurs, Tennis Légende, je vous suis sur Insta depuis un moment et je vois bah, vos trucs, etc. Donc on est tous un petit peu là-dedans et je pense que ça nous distrait. Par exemple, quand on est en tournoi ou quoi, en fait, les réseaux sociaux, c'est comme une drogue. Plus on y est et plus on a envie d'y être. Mais je pense qu'il a raison là-dedans. Moi, je vois beaucoup de trucs sur toutes les vidéos bah, qu'il y a de moi, etc., où tous les gens bah, ils m'insultent, des commentaires des fois insultants. Des fois, après les matchs, je reçois des messages d'insultes bah, de mecs qui ont parié sur le match ou plein de choses comme ça. Donc, c'est sûr que je pense que ça nous distrait un petit peu et il a peut-être raison. C'est pour ça que bah, les jeunes aujourd'hui n'arrivent pas à battre bah, des mecs comme Roger ou Nadal ou des mecs comme ça qui, eux, je pense, sont assez droits et ne vont pas trop là-dessus, n'écoutent pas ce que les gens pensent.
Toi, moralement, tu prends cher quand tu lis tout ça ou comment tu gères?
Ouais, je prends cher quand je lis tout ça, mais en fait, le plus dur, c'est que finalement, des fois, on est critiqué par des gens qui connaissent bien le tennis quand même et qui critiquent assez vite, en fait, hein. Moi, j'ai vu quand j'ai gagné en Australie, j'ai vite été critiqué par voilà, des gens qui connaissaient bien le tennis, que je connaissais aussi, comme quoi, voilà, gagner dernière année junior, c'était pas ouf, et que finalement, voilà, il n'y avait rien de dingue, qu'il aurait mieux fallu gagner un an avant. Enfin, il y a beaucoup de choses. Je trouve que les réseaux sociaux et le monde du sport, c'est quand même assez négatif. Il y a beaucoup de gens qui sont négatifs, et qui finalement, en tout cas, moi, c'est comment je le sens, qui essaie de te mettre vite des bâtons dans les roues. Donc, c'est difficile à gérer, mais ouais, je pense qu'en tout cas, le mieux pour moi, ce serait que bah, je m'efface complètement des réseaux sociaux et que je vive un petit peu dans une espèce de grotte comme ça, où bah, tout ce qui est en dehors de mon cercle proche n'existe plus, quoi.
Thierry récemment est paru dans un article de l'équipe pour évoquer votre manière de gérer l'utilisation du téléphone portable. Est-ce que vous avez des règles vraiment concrètes?
Il y a des règles concrètes, oui, il veut pas déjà que j'ai mon téléphone quand on est à table.
Okay.
C'est déjà parti une fois ou deux en embrouille au restaurant d'ailleurs à cause de ça. Non, je pense que voilà, il a raison de mettre des règles en place. Moi, comme j'ai dit déjà auparavant, c'est un entraîneur en qui j'ai confiance aveugle et entière. Donc voilà, s'il me dit de faire un truc, bah, je m'exécute et je me tais. Et voilà, je pense que c'est important voilà, bah, d'écouter son coach quand on a complètement confiance en lui. Et voilà, les règles sont claires. Après, il ne me met pas non plus de règles où il me dit, bah, par exemple, si tu fais pas ça, je te vire ou t'es sanctionné ou quoi. Voilà, il me dit, essaye par exemple, quand tu fais un tournoi pro, voilà, d'enlever les réseaux sociaux pendant la période du tournoi et de les reprendre après. Ou alors, tu limites le temps que tu passes dessus et t'évites bah, d'aller voir bah, tous les articles qui sortent ou toutes les choses négatives que tu peux voir pendant le tournoi et qui pourraient bah, voilà, te faire mal ou te faire sortir bah, de ce qui est le plus important, donc en vrai, de ce qui se passe sur le court.
Il m'a confié un petit truc pendant l'interview qu'on a faite. Il me dit que quand ton compte Instagram a été certifié avec la petite pastille bleue, pour toi, c'était comme un accomplissement de vie. Est-ce
C'est
que...
inventaire. C'est inventaire, il en rajoute. Il en rajoute, il en rajoute. Il est toujours comme ça, Thierry. Il est un petit peu marseillais, je dirais. Il en rajoute tout le temps. C'est pas du tout. Moi, j'ai toujours aimé la petite pastille bleue qu'il y avait à côté des comptes Instagram. Après, c'était pas du tout un objectif de vie non plus. J'en rigole avec lui des fois parce que bah, lui, il est complètement. Enfin, pour lui, tout ça, c'est complètement absurde. Donc, du coup, bah, des fois, j'en exagère un petit peu avec lui et ça l'énerve et ça me fait rire. Mais là, il abuse. Enfin, ça a jamais été non plus comment dire,
En soi, quoi.
un incroyable ou un objectif d'avoir un compte Instagram certifié. Après, quand je l'ai été, ça m'a fait plaisir quand même. Je m'en parle, ça m'a fait plaisir.
Est-ce que tu bosses avec un prépa ou une prépa mentale?
J'ai travaillé avec un préparateur mental, François Ducasse,
Ah ouais.
quand j'étais à Poitiers, il est malheureusement décédé. pendant que je travaillais avec lui. Donc ça a été un moment assez dur pour moi parce que j'avais beaucoup confiance en lui. J'avais beaucoup appris avec lui. Donc après, j'ai mis du temps à retravailler avec un prépa mental. J'ai retravaillé après avec un préparateur mental, Makis, qui travaillait à la Fédé avant. Et voilà, je travaillais assez peu avec lui. Mais voilà, je pense que ça m'a été bénéfique quand même. Mais je pense qu'aujourd'hui, mon préparateur mental, c'est Thierry quand même. Je trouve qu'il a cette fonction-là et voilà, celui avec qui j'arrive à donner ma confiance à ce niveau-là, c'est quand même c'est plutôt lui.
Quelle est ta pire galère sur un tournoi futur ou challenger?
Ma pire galère, ma pire galère. Une fois, je suis en finale, en demi, à Villers-les-Nancy. J'avais laissé mes raquettes au cordeur. J'avais oublié de les prendre en arrivant sur le court. Et en arrivant sur le court, j'ai ouvert mon sac, j'avais rien. Ouais. J'avais pas mes raquettes et j'ai dû aller les chercher chez le cordeur qui était sur. Un petit peu plus loin. Et je suis arrivé, je crois, 5 minutes ou 10 minutes en retard.
Et ça, c'était assez incroyable. Tu peux pas être, si tu arrives 15 minutes après, tu peux pas être scratché à cause de ça.
Ouais, je les avais prévenus quand même, mais c'était en demi. Ils avaient fait une entrée, ils avaient appelé les joueurs et tout. Et ça faisait un peu con d'arriver sur le court et de pas avoir de raquette dans le sac en arrivant en demi d'un futur. Donc. J'étais un petit peu gêné à ce moment-là et Thierry me l'a bien fait savoir d'ailleurs après le match.
Comment tu gères le stress d'avant-match?
C'est compliqué à gérer. Le stress, finalement, on ne gère pas forcément. Je pense que c'est quelque chose qu'on accepte au fil du temps et qu'on arrive à transformer en énergie positive. Avant n'importe quel match, je suis stressé, angoissé, avec un petit peu de boulante. Mais je dirais que là, en période de confinement, c'est ce qui me manque le plus. En fait, d'avoir ce stress d'avant-match, cette petite adrénaline qu'on a en rentrant sur un court, de par l'enjeu X ou Y qu'il peut avoir, et de par que ce soit un match de tennis et qu'on ait envie de gagner. Mais c'est un stress finalement, on ne le gère pas. Je pense qu'on accepte de vivre avec et on essaie de le transformer au maximum en énergie positive. Il ne faut pas que ça t'ensorcelle non plus.
Ouais. Est-ce que tu te souviens de ton plus gros craquage sur un court de tennis?
En finale du futur de Starbuck, j'ai complètement fissuré parce que je joue un Allemand en finale et on est à 3-3 au troisième set. Je sers, il y a 30-40. C'est un mec qui faisait 2 mètres, il servait à 220. On était en salle sur moquette. Ouais. Donc le break était mort. Enfin, si je me faisais breaker, j'avais une chance sur 20. De pouvoir revenir. Donc, il y a pas de break pour lui. Et moi, je fais une amortie. Il fait un chip comme ça où il monte avec. Et franchement, la balle, hein, là, j'en suis sûr, tout le monde l'a vu. Elle sort de ça, quoi. Là, enfin, largement. Quoi. Et le juge de ligne dit à l'arbitre qu'il a pas fait gaffe.
5 centimètres.
L'arbitre, ouais. Et l'arbitre, donc moi je vais voir l'arbitre, je commence à m'énerver, il me dit écoute Harold, je suis désolé, j'ai pas vu la balle, j'ai pas fait gaffe, tu as sûrement raison, mais je peux pas donner la balle faute alors que je l'ai pas vu et j'ai pas fait de l'annonce assez vite. Et c'était une erreur d'arbitrage incroyable parce que déjà de faire l'erreur de marque, je dirais, de la pensée bonne alors qu'elle est faute, mais en plus après de me dire qu'il a pas fait gaffe et que c'est une erreur d'inattention. Ouais. Ça m'a rendu complètement dingue, quoi. Et du coup, après, j'ai commencé à parler fort, à l'incendier. Et après, à la remise des prix, je suis parti. C'est mon frère qui est venu me prendre sur le parking, qui m'a ramené au stade. Enfin, bref, j'étais complètement en dehors de mes moyens et ça m'a vraiment fait fissurer.
Qu'est-ce qui t'apporte ton frère sur les tournois?
Arthur ne voyage pas encore beaucoup avec moi. Après, ça va. Je pense que ça va venir petit à petit. Mais déjà, moi, j'ai une relation assez fusionnelle avec lui. On parle énormément ensemble. Donc, ce qui m'apporte déjà, c'est de la sérénité. Et en plus, on parle pas souvent de tennis. Hein. Finalement, on parle plus d'autres choses. Et ça me permet de sortir un peu de ça. Mais voilà, il est assez impliqué dans ce que je fais. Et il sera amené à voyager de plus en plus avec moi. À mon avis, et voilà, ça fait toujours un plaisir d'avoir un supporter, je dirais, familial dans ce qu'on entreprend.
Tu rêves de quoi sportivement? Ton plus bel accomplissement, ça pourrait être quoi?
Mon plus bel accomplissement, je pense que ça serait de gagner ou un grand chelem ou les JO.
Ok. Tu mets les JO au même level que le grand chelem?
Moi, je mets les JO au même level, voire plus haut qu'un grand chelem parce que c'est, ça se joue une fois tous les 4 ans et que finalement il y a tous les meilleurs joueurs du monde qui jouent et en plus on joue son pays. Donc je mets les JO au même niveau, voire au-dessus qu'un grand chelem.
Est-ce que tu as des superstitions un peu inexplicables sur le court ?
Non. Non, non, pas forcément. Avant de servir, je tape toujours la balle avec le cadre de ma raquette. C'est la seule superstition que j'ai. Et après chaque point, je regarde toujours Thierry aussi.
D'accord.
Après chaque point, je regarde toujours Thierry pour savoir ce qu'il fait, la tête qu'il fait. Et j'aime bien voir ce qu'il pense après un point.
Et Thierry ne te dit pas forcément de te détacher de ça, de le regarder tout le temps ? Non, pour lui, il est OK avec ça ?
Il m'en a déjà parlé, mais je n'arrive vraiment pas à le faire. C'est comme une superstition. Donc voilà, du coup, il l'a accepté. Et pour l'instant, ça marche bien comme ça. Et moi, je trouve de la sérénité et un petit peu d'espoir dans son regard, que ce soit n'importe quand. Donc ça m'aide quand même pas mal. Enfin, sur le match et sur le moment présent que je suis en train de vivre.
Est-ce que tu as vécu des trucs cool avec Roger, Rafa ou Djoko ?
Non, j'ai jamais eu la chance de jouer avec un des trois, mais ça serait incroyable de pouvoir jouer avec Rafa au moins et j'en serais le plus heureux. J'espère que je vais vite avoir l'opportunité à Roland de jouer avec lui ou peut-être même contre lui un jour et j'ai hâte.
Plus Team Rafa ?
Ah ouais, Team Rafa à 300%.
C'est bon ça.
Et un fan absolu de ce type-là.
D'accord. Est-ce que tu as une intuition sur l'évolution du format de jeu ? Si le tennis devait être réduit au niveau des jeux ou du service ou du let ou quoi ? Tu as une intuition ?
J'ai aucune intuition, mais je suis complètement contre, par contre. Parce qu'aujourd'hui, le jeu veut changer. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, c'est chiant de voir un match de tennis forcément en entier à la télé. C'est un peu long. En réalité, le jeu est amené à changer à cause des médias et finalement de la télé. Donc, je suis complètement contre parce qu'on ne change pas l'histoire d'un sport et ces formats de jeu juste pour la télévision. Donc, je suis contre et j'espère que ça ne changera pas. Et si un jour j'ai la chance de pouvoir me battre contre ça, je le ferai.
Est-ce que tu penses que tu as déjà eu le boulard ?
C'est compliqué comme question parce que y a beaucoup de gens qui me l'ont dit, il y a beaucoup de gens qui le disent. Mais en tout cas, j'essaie de ne pas l'avoir du tout. J'essaie d'être assez simple. Après, j'ai peut-être des fois répondu à des questions. On a pensé que je pouvais avoir le boulard ou quoi que ce soit. Mais les gens qui me connaissent vraiment et qui sont proches de moi savent très bien que c'est en tout cas aucunement de l'arrogance. Après, mon comportement, des fois, sur le court, peut prêter à penser que je peux l'avoir de par le fait que je m'énerve ou que des fois, je peux dire des phrases qui sortent un petit peu de son contexte. Mais voilà, en tout cas, si les gens pensent ça de moi, c'est pas du tout le cas. Et voilà, j'espère que je pourrai leur prouver que je suis pas du tout un joueur hautain ou qui essaie de se penser pour un autre. Encore une fois, comme je l'ai dit au début de l'interview, moi je suis rien encore et j'ai encore tout à prouver. Donc, je pense que j'ai aucune prétention à avoir un boulard parce que là j'ai rien finalement pour l'avoir et que même si j'avais quelque chose, ce serait pas une raison pour s'en servir en étant hautain ou imbu de soi-même.
Matin, Tony m'a dit un truc incroyable. Il me dit, je lui dis, quand Rafa a gagné Roland à 19 ans, pour toi, c'était un accomplissement de ouf ou comme tu as toujours vu plus loin, tu regardais les 9 autres que tu voulais gagner. Il me dit, tu sais, quand Rafa a été champion d'Espagne déjà, j'ai pris la liste des 25 derniers champions d'Espagne. Et je lui ai dit, regarde la liste. Juan Manuel Hidalgo, tu le connais ? Non. Ramirez, machin, truc, tu le connais ? Non. Et il en a trouvé 20 comme ça. Et il dit, et toi, Rafa, est-ce que tu veux faire partie de ces 20-là ou tu veux faire partie des 3 là qu'on connaît ? Ok. Et bien maintenant, on va continuer de bosser. Il dit, Roland,
c'est… Il l'avait dit dans une émission qui s'appelait Coaching ou je ne sais plus comment elle s'appelait. Il l'avait dit et j'avais trouvé ce moment assez incroyable.
Incroyable.
Et je crois que Tony a été assez dur avec Rafa et c'est ce qui a fait, je pense, sa réussite
clairement.
Exceptionnelle qu'il a eue par la suite.
Il lui a dit pareil avec Roland à 19 ans. Il lui dit, est-ce que tu veux faire comme Moya et Ferrero qui ont gagné un Roland mais derrière, pas grand-chose. Et, enfin, c'est incroyable, je trouve, ce discours.
C'est incroyable. C'est dur, de dire ça à un jeune de 19 ans qui vient de gagner son premier grand chelem. C'est déjà incroyable. Et de dire finalement, bah, t'es encore rien. Et regarde un petit peu, tu veux être comme Pierre Paul-Jacques ou être comme Rog, Sampras à l'époque.
Yes.
C'est dur.
T'as toujours été avec Nike en équipementier textile?
J'étais avec Wilson au tout début.
Ouais.
J'avais une marque aussi qui m'a sponsorisé. Je pouvais mettre une petite gommette à côté de mon t-shirt Eurovia. Et après, j'ai été avec Nike à partir de Tarbes, la première année où j'ai joué Tarbes.
Et tu te souviens, la toute première dotation de fringues que tu as reçue avec Wilson, est-ce que tu as ressenti?
Je m'en souviens comme hier. J'étais comme un ange, ça faisait, je crois, ça faisait 3 jours que j'attendais mon colis à la fenêtre et j'étais comme un ange.
Aujourd'hui, t'as un agent, comment ça marche?
Aujourd'hui, ouais, j'ai un agent. J'ai un ancien joueur aussi, Jonathan Danière de VJ, qui s'occupe de moi via une entreprise justement d'agencement aux États-Unis qui s'appelle Octagon. Et donc voilà, je travaille avec eux et c'est Jonathan qui gère mes contrats sponsors ou marketing ou tout ça.
On a fait un épisode avec Jorge Salkeld d'Octagon. Très cool.
Ouais, il est sympa.
Pour terminer, Harold, j'ai quelques questions de fin qui sont globales à toutes les interviews. Quelle est ta définition de la richesse?
La richesse humaine, matérielle.
Ce que tu mets derrière.
Quelle est la définition de la richesse? La richesse, pour moi, c'est un mec qui a des valeurs dans tout ce qu'il entreprend. Et la richesse, c'est quelqu'un qui ira toujours au bout des choses qu'il veut faire et au bout de ses convictions.
Si le tennis n'avait pas existé, tu penses que tu serais allé dans quelle voie?
J'aurais sûrement fait l'armée ou quelque chose du genre.
T'aimes la rigueur vraiment cadrée?
J'ai toujours aimé l'armée, de par des reportages que j'ai pu voir sur le GIGN ou même sur l'armée, quand ils partent en mission. Quoi. J'ai toujours aimé ça, même les films par rapport à ça. Donc, même je pense après ma caractéristique, c'est possible que j'ai envie de rentrer là-dedans. L'armée de terre ou l'armée de l'air.
D'accord.
Ou une formation que je pourrais faire.
Comment tu fais pour rester fit pendant le confinement? Parce que j'ai l'impression que tu es quand même une bonne marmule.
Comment je fais pour rester fit? Je vis avec un mec qui mange des carottes et des courgettes. Donc,
ton frère?
Donc, j'arrive à rester fit. Oui, il mange des carottes et des courgettes. J'arrive à rester fit. Non, il n'est pas végétarien du tout. Il a juste pété les plombs depuis 6 mois. Et il était très, très gros quand il était jeune. Et il a décidé de se faire un corps d'athlète. Et il va à la salle depuis 1 an ou 2. Et il pousse de la fonte. Il fait beaucoup de cardio et il mange comme un moine. Parce que je ne vis pas qu'avec lui. Je vais sûrement chez ma belle-mère avec mon père. Et elle cuisine très, très bien. Donc, c'est super compliqué de rester fit, mais voilà, j'essaie de faire un maximum de sport aussi pour éliminer tout ce que je mange quand je suis chez eux.
Qu'est-ce qui te rend heureux à la fin de la journée, Harold?
Qu'est-ce qui me rend heureux à la fin de la journée? Revoir mes proches, et voilà, et me sentir bien et ne pas avoir de problèmes familial ou quoi que ce soit.
Qu'est-ce que tu fais pour être une meilleure personne?
Pour être une meilleure personne, qu'est-ce que je fais? J'essaye d'être généreux. Je suis généreux et j'essaye d'écouter les gens qui en ont besoin. J'essaie d'être là pour mes amis et les gens que j'aime.
Quelle est ta manière à toi de te fixer des objectifs?
Pendant le confinement, je me fixe plutôt des objectifs de poids. Mais je pense que mes objectifs, quand c'est une période normale, par exemple en tennis, j'essaie de me dire, par exemple, à la fin de l'année, je veux être 300e, je veux être 250e, je veux être dans le top 100. N'importe quoi, j'essaie de tout mettre en place pour l'atteindre.
Donc là, tu te pèses tous les 2 jours?
Ouais, tous les jours, je me pesais jusqu'à il y a 3 semaines. J'ai perdu 5 kilos en une semaine et demie. Et là, depuis, je me pèse plus, mais je sens que je reste fit quand même.
Quelle est l'expérience la plus incroyable de ta vie?
L'expérience la plus incroyable de ma vie, je crois que c'est les 2 semaines que j'ai passées à l'île Maurice.
Ah, génial, trop bien.
Ouais. Je crois que c'est vraiment l'expérience la plus incroyable de ma vie, que ce soit sur le plan humain ou sur le plan sportif. J'ai vu et vécu des choses de dingue là-bas.
Et humainement, qu'est-ce qui t'a le plus marqué?
Humainement, ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'on est arrivé là-bas en rentrant des gens qu'on ne connaissait pas. Tu m'avais juste contacté sur les réseaux et voilà, on a été accueillis comme des rois là-bas et c'était des personnes incroyables et on a passé des moments de dingue avec eux. Et voilà, je remercie encore Mathéo, Wendy et Fatih et tous les gens qui ont contribué à ce qu'on passe à un moment incroyable comme ça là-bas.
Génial.
Et Tadir aussi et la famille Rebtoula. Et voilà, tous ceux qui ont bénéficié à cette super expérience.
Comment est-ce que tu gères les gonzesses sur le circuit?
Ouh là là, la question qui fâche. Là. écoute, moi j'ai une copine.
Ouais.
voilà, je suis avec elle, je suis bien avec elle. Donc.
Très bien.
Bon, j'y pense pas trop.
D'accord. Du coup, la réponse à la question, le plat que tu cuisines le mieux, je la donne à ton frère.
Le plat que je cuisine le mieux, ben, moi, c'est le steak haché.
Ah ouais, pas évident.
J'arrive à faire des beaux steaks. Et, sinon, je me suis jamais forcément, j'ai jamais été très, très cuisinier.
D'accord. Est-ce qu'il y a un livre? Est-ce que tu bouquines un peu? Et si oui, est-ce qu'il y a un livre qui a marqué ta vie?
Le livre de Raphaël Nadal.
Très bien.
Qui a marqué ma vie. Ah. J'ai adoré, je l'ai lu plusieurs fois d'ailleurs. J'ai vraiment apprécié ce livre et je dirais Un appartement à Paris aussi de Musso.
Est-ce que tu as un film référence?
Ah, ouais.
Il y a Rafa qui recommence à faire du ménage.
Non, il y a. Arrête, putain. Moi, j'ai adoré Bryce the Nice.
Ah ouais?
Ouais. C'est un de mes films que je préfère regarder. Et sinon, il y a Intouchable aussi.
Ouais.
Intouchable et je dirais Horse Soldiers.
Lequel? C'est lequel le dernier?
C'est le Horse Soldiers.
Ok. Ouais. Le concert le plus ouf auquel t'es assisté?
Le concert le plus ouf, SCH. Ouais.
Très bien. Est-ce que tu pratiques la méditation?
J'en ai fait. À un moment donné, pendant 6 mois, 7 mois, j'en ai fait. Ça m'a beaucoup aidé à me concentrer sur moi-même et à être plus calme. Mais ça fait un temps que j'en ai plus fait, mais je vais peut-être m'y remettre.
D'accord. Quelle a été la plus grosse période de doute de ta vie?
Je dirais le moment où je suis passé de Poitiers à Paris. J'ai quitté le Krebs pour aller à Paris.
C'était il y a combien de temps?
C'était il y a un an et demi, du coup, quand j'ai rencontré Thierry. Et c'était un moment assez flou parce que ça s'est très, très, très mal passé la dernière année avec mon entraîneur. Et donc, c'était une période assez floue de ma vie et j'avais plus envie voilà, d'avoir une vie de jeune homme normal qu'une vie de sportif. Et voilà, j'avais un moment de doute à ce moment-là. Et voilà, encore une fois, mon entourage et tout ça m'ont permis voilà, de repartir de plus belle. Après ça.
Et qu'est-ce que le Harold qui a gagné là l'Open Australie et qui a fait le plein de confiance dirait au Harold qui était dans cette période de doute?
Il dirait au Rock Espoir de doute que voilà, ça vaut le coup de se battre et que voilà, chaque être humain rencontre à un moment donné une période difficile dans sa vie et que voilà, le but c'est de savoir s'en servir comme une force et non s'apitoyer sur son sort.
Est-ce qu'il y a une citation que tu aimes bien?
Ouais, encore une fois, et c'est dingue parce qu'on va croire que je suis un fan de Rafa Absolu, ce qui est vrai. J'ai une citation que j'aime bien de lui que j'ai lu pas dans son livre, dans son autobiographie, mais dans un autre livre qu'il avait fait. C'était chaque point est important et quel que soit le niveau chaque match est important et quel que soit le niveau de l'adversaire, rien ne peut remplacer les instants de vérité de la compétition.
Allez là, c'est bon ça.
Phrase de Rafa.
Pourquoi avoir accepté cette interview, Harold?
Parce que j'adore votre site, ça fait un moment que je vous suis depuis 2-3 ans et que j'adore votre site, comment il est construit et que je passe toujours un bon moment en regardant vos vidéos. Donc j'avais envie de faire partie un petit peu de ça et de rencontrer aussi les gens qui s'occupent de ce site.
Ah, ben c'est gentil. Je transmettrai à Johan parce que c'est essentiellement ouais. Johan qui est l'autre figure et qui poste tout le contenu qui est excellent.
Ouais,
Pour terminer, est-ce qu'il y a une personne que tu nous recommandes d'avoir ici sur ce podcast pour parler tennis et que tu pourrais nous aider à avoir?
Moi, je pense que Arthur Cazot peut être intéressant. C'est le mec que j'ai vu en finale en Australie.
Ouais.
Et c'est assez sérieux et qui parle très bien et qui a beaucoup d'anecdotes à vous raconter. Et ça pourrait être intéressant d'avoir un junior comme ça aussi qui fait partie des meilleurs
cool.
dans votre liste.
Quel est le truc le plus dingue qu'on puisse te souhaiter, Harold?
Le truc le plus dingue qu'on puisse me souhaiter, c'est un jour réussir à gagner un grand chelem ou les JO.
Allez, vamos. Le rendez-vous est pris. Merci d'avoir pris le temps, vraiment. Et puis, je dirais à Thierry qui s'est trompé que tu étais largement capable de te concentrer.
Et voilà, exactement. Merci. Il aura tort.
Allez, à la prochaine.
Allez, ciao, ciao. Merci pour tout.
Merci beaucoup. Ciao.
Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode avec le jeune français Harold Maillot. Si vous l'avez aimé, vous pouvez vraiment nous aider à faire grandir ce podcast en nous mettant 5 étoiles et un commentaire sympa, peu importe où vous l'écoutez. Faites le temps que c'est chaud, en plus ça nous motive, ça nous aide, c'est tout bénef. Merci au passage à Joe Chelsea et The Ben Rico pour vos deux derniers commentaires qui font super plaisir. Une autre tactique qui marche fort, c'est le bouche à oreille. Envoyez votre ou vos épisodes préférés à vos potes et abonnez-les directement sur leur téléphone, comme ça on est tranquille. Pense au passage à récupérer tes ressources offertes dès maintenant pour mieux comprendre ton style de jeu et avoir des schémas plus clairs sur le cours. Grâce aux 4 optimisations enregistrées avec notre expert de la stat Fabs Barreau, c'est le premier lien en description. Et si tu veux arrêter de mouiller en match, ou dès qu'il y a un peu d'enjeu, j'ai regroupé 14 enseignements du prépa mental Jean-Philippe Vaillant, qui est passé au micro. Jean-Philippe a coaché 12 top 100, c'est le deuxième lien en description. Tu peux aussi nous souffler des idées grâce à un questionnaire. Il nous permet de mieux comprendre ce qui te plaît pour continuer à te régaler. Un autre big merci aux tipeurs récurrents qui nous soutiennent sur la plateforme Tipeee. Ça fait chaud au cœur, ce podcast, c'est énormément de temps investi. Environ 15 heures de travail par épisode et nous soutenir encourage à tout donner pour vous régaler chaque semaine. Si vous avez des projets à nous proposer, vous pouvez m'écrire sur LinkedIn à Max Zamora, Z-A-M-O-R-A. Merci à tous ceux qui ont déjà pris le temps de le faire et surtout, n'hésitez pas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous les légendes. Bon Wimbledon et encore un grand merci pour vos bonnes ondes. À très vite. Ciao.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.